Il est faux pour certaines dates. Il est faux parce qu'il manque des conférences, notamment la conférence du doyen Michel Dionneur, hein, doyen de la faculté de théologie d'Aix-en-Provence, qui n'est pas mentionnée dans l'ancien programme, hein, puisque le doyen Michel Dionneur va venir nous faire une conférence sur le mariage huguenot, auquel il a consacré sa thèse d'État, une très belle thèse d'État, hein, au mois de mai de cette année. Et donc, c'est une conférence hors cycle. Donc, n'oubliez pas de jeter l'ancien programme et de prendre le nouveau programme, Les protestants à l'épreuve du pouvoir, hein, où vous retrouverez les conférences du cycle ici à Alès, les conférences hors cycle, les conférences organisées à Cholet et aussi conférences organisées à Metz, hein, puisque Bernard Cottret vient faire aussi une conférence à Metz. Il y a aussi une conférence à Aix-en-Provence avec Patrick Cabanel d'organiser. Donc, n'hésitez pas à vous munir du programme. Je le redirai aussi à la fin de cette conférence, puisque le propre de l'homme étant d'oublier, je n'hésiterai pas à vous le rappeler. Je vous remercie d'être venu ce soir pour écouter Julien Léonard, que je remercie aussi d'avoir accepté notre invitation, et qui est maître de conférence donc à l'Université de Lorraine, plus exactement à Nancy, qui a consacré sa thèse d'État à l'étude d'une figure pastorale, la figure de Ferry, hein, de Paul Ferry, publiée ici aux Presses universitaires de Rennes, donc une version contractée de sa thèse. Je vous invite aussi à découvrir ce bel ouvrage qui permet de se plonger dans une figure pastorale du XVIIe siècle. Et les pasteurs du XVIIe siècle sont peu connus. Les pasteurs en règle générale sont peu connus d'ailleurs. Il y a peu de publications et de biographies pastorales de publiées. Et ici, donc, c'est un ouvrage qui est assez rarissime, qui fait le tour de la figure du pasteur, hein, à la fois pour ce qui est de sa formation, de son cadre familial, de ses actes pastoraux aussi, de son champ intellectuel. C'est l'ensemble, hein, de la figure pastorale de Ferry ici qui est étudié, mais aussi c'est une approche du corps pastoral en règle générale, hein, que Julien Léonard s'est attelé à étudier. Et donc c'est un ouvrage assez vaste qui va bien au-delà de la figure de Paul Ferry, qui est un pasteur de Metz, mais ce soir, Julien Léonard va nous en dire beaucoup plus. On étudie ici ce soir un aspect du pouvoir, les protestants à l'épreuve du pouvoir. Les protestants sont à l'épreuve du pouvoir, confrontés évidemment au pouvoir d'État. On l'a vu avec Hugues d'Ossie, hein, le pouvoir royal. On le verra aussi avec le pouvoir d'État en règle générale sous la Troisième République, puisque les protestants vont se réorganiser et Rémi Fabre viendra étudier cette réorganisation au travers du pouvoir des associations et notamment d'une des grandes figures associatives de cette époque, Francis de Pressensé. Mais ce soir, nous étudions les protestants à l'épreuve du pouvoir en leur sein. Comment les protestants ont été contraints aussi, alors qu'eux ont souvent été en opposition face au pouvoir, à l'autorité, comment les protestants ont dû justement penser cette question du pouvoir à l'intérieur même de leurs institutions, et notamment avec une des figures majeures de l'autorité au sein du protestantisme, c'est la figure du pasteur. Et Julien Léonard aussi glissera, hein, ce soir peut-être un peu aussi vers ces autres figures de pouvoir que sont notamment les synodes provinciaux et les synodes nationaux. Donc je lui laisse tout de suite la parole, hein, pour 45 à 50 minutes de présentation, après quoi, hein, vous pourrez poser vos questions, rebondir, faire vos remarques, hein, pendant à peu près 15-20 minutes. Voilà, je laisse tout de suite la parole à Julien.
Merci, merci beaucoup. Alors, d'abord, merci pour cette invitation, cette très gentille invitation. Pour moi, venir à Alès a été une sorte de double choc, puisque ce matin, j'étais à Nancy, donc c'est d'abord un choc thermique. Et ensuite, c'est un choc culturel, j'étais en train de le dire. Quand on fait une conférence sur l'histoire du protestantisme dans le Grand Est, et en Lorraine en tout cas, on a beaucoup, beaucoup moins de public. Donc pour moi, c'est assez intimidant et c'est aussi une forme de choc culturel. Donc merci beaucoup de m'avoir invité et puis de me permettre de parler de mes travaux de recherche devant un public aussi large. C'est vraiment très important. Merci. Alors, tout d'abord, ça pourrait sembler étrange de parler du pasteur comme figure de pouvoir, puis, si l'on s'en tient à la théorie. En effet, si l'on lit les textes qui régissent normalement l'exercice du ministère pastoral, alors, notamment les textes fondateurs de Calvin, la discipline des églises réformées de France, etc. Théoriquement, le pasteur ne doit pas jouer de rôle politique. Il ne doit pas être
une figure de pouvoir, il doit simplement prêcher, administrer les sacrements et veiller à la discipline dans son Église. Ce sont ces trois grandes missions, ce sont les trois grandes missions que répètent tous les textes qu'on pourrait qualifier de normatifs, vraiment les textes fondateurs de la réforme calviniste. Donc, pourquoi parler du pasteur comme figure de pouvoir sous le régime de l'Édit de Nantes, c'est-à-dire de 1598 à 1685? Eh bien, c'est parce que deux éléments, à mon avis importants, deux éléments ont poussé les pasteurs à devenir des figures de pouvoir, à la fois à l'intérieur de leur communauté et comme représentant de leur communauté face au pouvoir politique, le pouvoir royal essentiellement. Le premier élément d'explication, et j'essaierai d'y revenir pendant la conférence, c'est que le XVIIe siècle est un siècle où on assiste à une forme de désaffection de la haute noblesse pour le protestantisme. C'est-à-dire que c'est un siècle où on assiste à de très nombreuses conversions au catholicisme de ceux qu'on appelle les grands. Alors ça commence pendant les guerres dites de Rohan, dans les années 1620. On a la conversion de Lédiguière, par exemple, celui qui est le dernier grand connétable, grand chef de l'armée de Louis XIII. Un peu plus loin dans le siècle, le dernier à se convertir, le dernier vrai grand à être protestant, c'est Turenne. En 1668, il se convertit au catholicisme. Alors cette désaffection des nobles pour le protestantisme fait que, eh bien, il n'y a plus de protecteurs politiques et de figures d'autorité au sein des églises réformées. Et donc, pour exercer cette charge, cette charge de conduire les églises du point de vue politique et dans leur lien avec l'autorité, eh bien, les pasteurs vont être quasiment contraints de modifier un petit peu leur mission initiale. Et puis la deuxième raison, à mon sens plus difficile à percevoir, mais que j'essaierai également de vous montrer, c'est qu'on assiste au XVIIe siècle à un processus que les historiens ont nommé d'un nom un peu barbare, qui est la cléricalisation. Alors qu'est-ce que la cléricalisation ? Eh bien, c'est que petit à petit, au XVIIe siècle, les pasteurs se sont transformés petit à petit en clergé. Alors, l'historien Thierry Van Eckfelen a beaucoup insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un clergé comparable à celui des catholiques. Chez les catholiques, ce qui est fondateur du clergé, c'est ce qu'on appelle le sacerdoce, c'est-à-dire que le prêtre est d'une nature différente des fidèles. Chez les protestants, le principe fondateur est celui du sacerdoce universel. Ça veut dire que tous les fidèles ont un lien direct avec Dieu et n'ont pas besoin d'un médiateur. Mais au XVIIe siècle, bien qu'il n'y ait pas de sacerdoce chez les protestants, on s'aperçoit qu'il y a une véritable cléricalisation, c'est-à-dire une volonté nette chez les pasteurs de marquer leur différence avec les fidèles, qu'on pourrait appeler les laïcs, si vous voulez. Alors, juste avant de commencer, à vous en parler plus précisément, je crois qu'on peut le voir sur deux gravures qui sont assez révélatrices de cette cléricalisation. Ce sont des gravures qui représentent une cérémonie qui, au XVIIe siècle, s'étend, alors qu'au XVIe siècle, elle avait eu de la peine à s'imposer. C'est la cérémonie d'imposition des mains. L'imposition des mains, c'est la cérémonie au cours de laquelle l'étudiant en théologie devient un pasteur. Alors on a ici un dessin, qui est certainement la seule représentation d'une cérémonie d'imposition des mains qu'on ait au XVIIe siècle. Ça se passe donc dans le temple de Metz, dont je parlais, mais là c'est vraiment le seul. J'ai pris cet exemple-là parce que j'y étais contraint, c'est le seul exemple du XVIIe siècle qu'on ait. Et donc on a un pasteur qui impose les mains à son nouveau collègue. Alors, de très nombreux contemporains au XVIIe siècle ont souligné la proximité visuelle avec une cérémonie d'ordination des prêtres catholiques. Et donc là, on a un aspect de cette cléricalisation. Et puis la deuxième gravure, elle date du XVIIIe. Là, on est aux Provinces Unies, dans les actuels Pays-Bas, et on a aussi une imposition des mains, et puis on le voit, ça ressemble là aussi à une cérémonie d'ordination. Alors, quelques mots encore avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet pour vous dire que si les pasteurs du XVIIe siècle sont relativement mal connus, c'est qu'ils ont pâti de deux problèmes qu'on pourrait qualifier d'historiographiques. C'est-à-dire que les historiens, pour deux raisons, ont eu du mal à se pencher sur le XVIIe siècle. La première raison, c'est que le XVIIe siècle a souvent été vu par les historiens comme un petit peu coincé entre deux grands siècles héroïques. Le premier, évidemment, c'est celui de la Réformation, le XVIe siècle, le moment où le protestantisme s'installe. Et puis le siècle dit du désert, c'est-à-dire celui où, après la révocation de l'édit de Nantes, les protestants sont contraints à exercer le culte dans des conditions clandestines. Alors, face à ces deux périodes où vraiment on a de grandes figures pastorales qui sont des héros, qui résistent au pouvoir, eh bien, au contraire, au XVIe siècle, on a des pasteurs qui sont en lien avec le pouvoir et qui collaborent avec le pouvoir. Alors ça, c'est une des grandes thèses d'Émile Guillaume Léonard, qui était un grand historien du protestantisme. Malheureusement, j'ai aucun lien avec lui. Et dans son Histoire générale du protestantisme, notamment dans le deuxième volume, il présente le XVIIe siècle comme étant le siècle de l'établissement. Il appelle ça l'établissement. Et il dit que les pasteurs se sont embourgeoisés, ils se sont un peu corrompus à exercer le pouvoir et à avoir des liens avec le pouvoir. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle le XVIIe siècle est relativement mal connu. Et puis la deuxième raison, c'est que d'autres historiens, et encore plus anciens, puisque là il faut remonter déjà à la fin du XVIIe siècle avec Élie Benoît, qui écrit la première histoire de l'édit de Nantes au début des années 1690, ces historiens ont souligné que le régime de l'édit de Nantes était en lui-même pervers. Alors ça, je vous le dis, on l'a écrit dès les lendemains de la révocation. L'idée était que finalement la révocation était inévitable et que la révocation était incluse dans l'édit de Nantes lui-même. Alors ça, c'est une idée qui peut se débattre d'ailleurs, qui n'est pas totalement sans fondement, mais qui a fait que le XVIIe siècle et le régime de l'édit de Nantes ont toujours été vus avec beaucoup de suspicion. Alors, moi, ce que je vais vous présenter, c'est comment les pasteurs ont eu cette relation au pouvoir, mais en partant du principe que le XVIIe siècle est un siècle qui est intéressant pour soi, précisément parce que c'est un siècle où les églises protestantes ont pu fonctionner de façon ordinaire et de façon convenable, institutionnelle. Et donc, ça nous a donné énormément de sources. Alors, dans un premier temps, je vais scander un petit peu cette relation au pouvoir à différentes échelles, à l'intérieur des communautés, ensuite face aux représentants du pouvoir, et puis ensuite quelle est la vision qu'ont les pasteurs protestants de la monarchie absolue elle-même. Donc dans un premier temps, le pasteur, un homme de pouvoir donc, au sein des églises, et puis voir comment fonctionne cette cléricalisation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors tout d'abord, au sein des consistoires. Alors, les consistoires, ce sont des conseils locaux qui sont composés donc, des pasteurs, ou du pasteur s'il n'y en a qu'un, des anciens et des diacres. Alors, les anciens, ce sont des laïcs qui exercent pour 2 ou 3 ans, ça dépend des églises, la mission de surveiller les mœurs du troupeau. Ça, donc, c'est la fonction des anciens. Et puis, les diacres, eux, eh bien, ils ont, alors pour la même durée généralement, ils ont la mission de s'occuper des affligés. Alors c'est une mission un petit peu floue, mais généralement, au XVIIe siècle, les diacres concentrent leur action sur l'assistance aux pauvres. L'assistance aux pauvres, et dans les églises réformées, il y a un système d'assistance aux pauvres qui est extrêmement développé. Alors au sein des consistoires, les pasteurs ont parfois beaucoup de mal à imposer leur autorité. C'est-à-dire que les diacres et les anciens ont tendance à vouloir surveiller le pasteur, voire à entraver son pouvoir. Alors, on pourrait multiplier les exemples. C'est parfois difficile de faire la synthèse parce que, évidemment, ces exemples-là, on les pioche dans les rares registres des consistoires qui restent. Pratiquement tous les registres des consistoires ont été détruits après la révocation de l'édit de Nantes, donc c'est parfois difficile. Alors, on a de la chance, à Nîmes, il reste pratiquement toute la collection, qui a été étudié par l'historien Philippe Charrère, mais c'est finalement relativement rare. Alors, je vous donnerai juste 2 exemples de luttes internes dans les consistoires qui montrent que les pasteurs sont parfois des figures contestées de pouvoir. Alors, le premier exemple, il se trouve dans les années 1615-1616 à Bordeaux. Dans la communauté réformée de Bordeaux, éclate un conflit généralisé entre les deux pasteurs, qui sont Gilbert Primrose et John Cameron, donc les deux pasteurs, et l'intégralité des anciens et des diacres. Alors, ce conflit, on a beaucoup de mal à en connaître les tenants et les aboutissants, mais pour vous en montrer la violence, les anciens et les diacres finissent par porter plainte contre leur propre pasteur devant la justice civile. Devant la justice royale. Alors évidemment, la justice royale se frotte les mains d'avoir affaire à traiter un tel cas. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ceux qui portent plainte vraiment n'hésitent et ne reculent devant aucun argument, puisque finalement, ce qui les pousse à porter plainte, c'est de dire que les pasteurs ne sont pas légitimes parce qu'ils sont étrangers, ils sont écossais. Ces deux pasteurs-là sont écossais. Et puis finalement, de plainte en plainte, de tribunal en tribunal, ils finissent par être destitués et ils doivent changer d'église. Et donc ce sont les anciens et les diacres qui ont fini par avoir gain de cause. Donc vous voyez, il y a des oppositions larvées. Alors le deuxième exemple, c'est un exemple que je tire de l'exemple de Metz. Désolé, il va y en avoir quelques-uns. J'essaierai de pas trop les développer. Moi. En tout cas, c'est une affaire qui montre que très souvent, les conflits se cristallisent autour de l'élection des pasteurs et de la succession des pasteurs. Alors, théoriquement, dans les églises réformées de France, ce sont les synodes provinciaux ou les colloques, j'y reviendrai tout à l'heure, qui choisissent les pasteurs et qui ensuite les envoie dans les églises. Sauf qu'à Metz, c'est un cas un peu particulier, pour des raisons historiques, la ville n'est pas intégrée aux autres églises réformées de France, et ce sont les chefs de famille qui élisent eux-mêmes les pasteurs. Alors le problème, c'est que dans les années 1660, il y a un pasteur, celui sur lequel j'ai beaucoup écrit, qui s'appelle Paul Ferry, qui se trouve malade, vieillissant, et qui voudrait imposer... un successeur de son vivant, sauf que ce successeur de son vivant, c'est son gendre. Donc il veut imposer son gendre, et à partir de ce moment-là, le consistoire se déchire en deux, entre ses partisans et ses opposants, et c'est à nouveau le consistoire, et en tout cas à nouveau l'élément non pastoral du consistoire, qui finit par avoir gain de cause, puisque le gendre en question de Paul Ferry est obligé de quitter Metz. Encore une fois, les opposants ont porté plainte et les autorités politiques ont dit que ce gendre devait partir, qu'il y avait déjà un nombre suffisant de pasteurs. Et finalement, il faut attendre la mort de Paul Ferry pour que son gendre puisse enfin lui succéder. Alors, il finit par lui succéder, mais l'affaire prend comme ça une dizaine d'années. Alors, ces questions-là posent la question de la cléricalisation et de l'anticléricalisme. En effet, à côté de ces manifestations assez claires d'hostilité aux pasteurs comme figure de pouvoir, on a des exemples qui montrent au contraire que les pasteurs essayent de s'imposer. Alors là aussi, je vous donnerai juste, ou en tout cas de se distinguer, je vous donnerai juste deux exemples. Le premier exemple, c'est l'exemple du vêtement. Alors l'exemple du vêtement, là je vous ai donné les images de quatre pasteurs qui se succèdent chronologiquement. Alors, vous avez ici un pasteur qui s'appelle Louis Desmazur, qui était pasteur dans les années 1560. Ici, un pasteur qui s'appelle François Decomble, qui vient de Châlons en Champagne, qui date des années 1590. Ici, Abraham de la Cloche, qui est dans les années 1650. Et là, David Ancillon, dans les années 1680. Alors, leur nom importe relativement peu. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a, au XVIIe siècle, un processus de distinction des pasteurs par leurs vêtements. Et par leurs vêtements, ils essayent de montrer justement la nature de leur pouvoir, qui est le pouvoir du savoir. En effet, on assiste, vous le voyez ici, dans les années 1560, il n'y a absolument rien qui distingue cet homme-là d'un laïc. Au contraire, dans les années 1560, les pasteurs souvent essayent de s'habiller comme des laïcs pour ne pas être confondus avec un prêtre. Au XVIIe siècle, c'est le contraire. Et on a une cléricalisation du vêtement. Alors, vous avez ici le début du port du col, puis vous avez progressivement le port d'une calotte. Hein, donc là, on a une vraie cléricalisation. Alors, ce port de la robe longue, en fait, signifie l'autorité du savoir, parce que contrairement à la soutane des catholiques, ils ne portent pas la robe longue parce qu'ils sont pasteurs, mais parce qu'ils sont docteurs en théologie. C'est la robe longue, c'est la toge universitaire. Hein. Et donc, on a comme ça ce processus de distinction. Deuxième exemple que l'on pourrait donner comme processus de cléricalisation, c'est qu'au cours du XVIIe siècle, les pasteurs ont eu tendance, et même de plus en plus, hein, notamment à partir des années 1650, ils ont eu tendance à empiéter sur les autres ministères, sur les ministères notamment des anciens et des diacres. Alors ça se voit particulièrement chez un auteur, qui est un auteur très important, majeur même, de l'histoire du pastorat protestant au XVIIe siècle, c'est Charles Drolincourt. Alors Charles Drolincourt, c'est un pasteur de Paris, il exerce à Charenton, hein, au temple de Charenton, qui abrite donc la communauté parisienne. Et ce Charles Drolincourt, il est resté très connu, d'ailleurs c'est écrit en dessous hein, dans le texte, alors je ne sais pas du coup si vous voyez grand-chose. Drolincourt est resté célèbre pour avoir montré, alors c'est écrit en dessous, hein, montré à bien mourir. C'était sa spécialité, il a écrit énormément de livres sur comment bien mourir, c'est-à-dire comment mourir en montrant qu'on est un vrai chrétien. Or, cette mission l'a poussé à très souvent visiter les malades et il en a même écrit un livre en 5 tomes qui s'appelle « Les visites charitables ou les consolations chrétiennes ». Alors, c'est un véritable manuel qui présente une centaine de cas différents, c'est-à-dire quoi dire au malade en fonction de quelle maladie il a, de combien de temps il lui reste à vivre, quelles sont les prières qu'il va pouvoir dire, qu'est-ce que le pasteur doit dire, etc. Bon, alors, précisé comme ça, on pourrait dire que c'est un rôle tout à fait normal pour un pasteur, mais, je vous le disais tout à l'heure, l'assistance aux malades et la visite des malades, c'était une des missions des diacres. Hein. Et donc là, on a au XVIIe siècle une sorte de captation d'un des ministères par le ministère pastoral. Hein. Alors, ça peut se retrouver aussi pour le ministère des anciens. Hein, il y a une tendance au XVIIe siècle à considérer que le pasteur, comme il est le seul des types de ministres qui est un ministère stable, à vie, eh bien, comme il est le seul, eh bien, il va avoir l'ensemble de la charge ministérielle au sein des églises. Hein, donc ça c'est tout à fait visible. Et donc, à l'inverse, hein, on peut comprendre la crispation des consistoires et la crispation des éléments laïcs des consistoires dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permet eh bien, de comprendre pourquoi on s'oppose très souvent aux pasteurs comme figure de pouvoir. Alors parfois, ces oppositions peuvent avoir une véritable visibilité pour la communauté. Alors par exemple, j'ai retrouvé que dans l'église de Paris, donc à Charenton, en 1645, les anciens réussissent à imposer à leur pasteur que le sermon de semaine ne devra plus durer qu'une heure. Normalement, il y a trois sermons par semaine. Hein. Il y a un sermon le mercredi, un sermon le vendredi, un sermon le dimanche. Le sermon du dimanche pourra rester à 1h30. Mais le sermon du mercredi et du vendredi ne devra pas excéder une heure. Et d'ailleurs, alors je vous ai montré tout à l'heure là l'imposition des mains. Dans les chaires, au XVIIe siècle, dans de très nombreuses églises, on a ce qu'on retrouve à Metz, on a ici un sablier. On a un sablier, c'est-à-dire que les fidèles voient combien de tours de sablier le pasteur a fait. Ils savent combien de tours de sablier il a le droit de faire. Et s'il excède, eh bien, alors il commence à faire du bruit, etc. Peut-être qu'au bout d'une heure et demie, peut-être qu'on peut commencer à se déconcentrer.
Il faut dire que Drolincourt avait fait 2h45.
Oui, Drolincourt, son record, c'est 2h45, effectivement. 2h45 d'explication, c'est parfois un peu long. Bien, alors, donc ça, c'est vraiment à l'échelle d'une église. On a comme ça ces manifestations de cléricalisation et d'anticléricalisme. Le mot d'anticléricalisme n'est pas trop fort. Hein. Je me réfère toujours au même historien que je vous ai cité tout à l'heure, hein, Thierry Van Eckfelen, qui avait montré que la naissance de l'anticléricalisme, eh bien, il fallait la situer justement vers ces 16e, 17e siècles, mais en milieu croyant. Les premiers anticléricaux, ce sont les laïcs croyants qui s'opposent à au trop de pouvoir qu'ont les pasteurs. Et donc, il avait bien montré que l'anticléricalisme est au départ un anticléricalisme croyant, en tout cas au XVIIe siècle, et c'est une réponse à la cléricalisation. Alors, voyons maintenant un autre niveau, c'est le niveau des colloques et des synodes, pour voir s'il y a une véritable, là aussi, concurrence laïque. Alors, que sont les colloques et les synodes ? Les colloques et les synodes, ce sont des niveaux hiérarchiques dans l'organisation des églises réformées de France. Donc, au niveau local, vous avez donc des consistoires qui regroupent les pasteurs et les diacres et les anciens, je vous l'ai dit. Et puis, il y a des niveaux supérieurs. Le niveau donc, du colloque, c'est un groupe d'églises, généralement 7 ou 8. Au-dessus, vous avez la province synodale. Et puis, au sommet, donc, les églises réformées de France qui forment un synode national. Alors, à chacun de ces niveaux de la hiérarchie, les églises sont normalement contraintes d'envoyer à la fois des pasteurs et des laïcs. Donc, normalement, ils envoient un pasteur et un ancien ou un diacre au colloque ou au synode provincial. Et ensuite, chaque synode provincial envoie deux pasteurs et deux anciens au synode national. Alors, malgré cette parité entre clercs et laïcs au XVIIe siècle, les représentations que nous avons des tenues des synodes nationaux, alors ce sont des représentations qui ont été réinterprétées après coup hein, au XVIIIe siècle, eh bien, sont des gravures où l'élément laïque n'apparaît pas. Au XVIIIe siècle, quand on se représente comment fonctionnait un synode du XVIIe, eh bien, on ne montre que des pasteurs. Alors, en réalité, cette interprétation est fausse. Et si on se penche sur les actes des colloques, des synodes provinciaux et des synodes nationaux, d'ailleurs il y a une série d'éditions en cours hein, de ces synodes qui paraissent actuellement et qui nous donnent beaucoup de sources, on s'aperçoit que les pasteurs, là aussi, sont une figure extrêmement contestée de l'exercice du pouvoir. Les pasteurs sont surveillés par les laïcs et lorsqu'ils sont contestés dans leur consistoire et qu'une plainte est portée ensuite au synode provincial ou au synode national, eh bien, ils n'ont pas toujours gain de cause. Ils n'ont pas toujours gain de cause et au contraire, parfois, ils sont condamnés. Alors, l'historienne Françoise Chevalier a calculé qu'au cours du XVIIe siècle, il y a environ 10% des pasteurs qui, à un moment de leur carrière, ont été déposés. C'est-à-dire qu'on leur interdit d'exercer le ministère pastoral pour des raisons de discipline, 10%. Alors, il faut quand même se dire que ça fait un nombre assez considérable, puisque alors, on ne sait pas exactement combien il y a eu de pasteurs pendant tout le XVIIe siècle en France, mais on sait qu'il y en a à peu près simultanément 700. À peu près simultanément 700 dans les églises dans toute la France. Donc, vous voyez, hein, 10%, ça fait déjà un nombre assez important. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles on peut déposer les pasteurs ? Ce sont des raisons qui sont parfois qui pourraient nous paraître secondaires, mais qui, dans l'esprit des réformés du XVIIe siècle, ne le sont pas du tout. Alors, là aussi, je vais vous donner un exemple. Il y a une église qui, dans les années 1650-1660, a beaucoup de mal avec deux de ses pasteurs successifs. C'est l'église de Vitry, Vitry-le-François, en Champagne. Et ces deux pasteurs successifs ont des problèmes qui amènent à une déposition. Et quand on regarde pourquoi ils sont déposés, on s'aperçoit que ce sont des raisons qui sont très personnelles et qui relèvent de leur vie personnelle. Le premier s'appelle Benjamin Anguenet, et le premier, eh bien, il est déposé pour avoir eu pour ne pas s'être entendu avec sa belle-mère. Voilà. Il ne s'entendait pas avec sa belle-mère. Et c'est rare, hein, mais des gens qui ne s'entendent pas avec leur belle-mère. Donc, ils ne s'entendent pas avec sa belle-mère, sauf que ça va au-delà de la simple mésentente, c'est-à-dire qu'ils s'entendent tellement mal que ça fait, alors ça c'est vraiment le mot qui fait peur à tous les consistoires et à tous les synodes, ça fait scandale. Alors là, le scandale, c'est vraiment ce qui fait très peur. Et comme ça fait scandale, comme ça se sait, comme c'est sur la place publique, eh bien, Benjamin Anguenet, il est déposé. Et son successeur s'appelle Samuel de la Cloche. Alors, c'est le fils du pasteur de Metz dont je vous ai montré le portrait tout à l'heure. Samuel de la Cloche, lui, eh bien, il finit par être déposé. Pourquoi ? Quelques années plus tard. Pourquoi ? Parce que, il n'arrive pas à imposer à sa femme et à ses filles de se vêtir et de se coiffer convenablement. C'est ce qui est noté dans les actes. Hein. C'est-à-dire que leur coiffure monte trop haut et leurs robes sont trop luxueuses, eh bien, il est déposé. Alors là, il faut quand même avoir conscience qu'au XVIIe siècle, d'ailleurs au XVIe aussi, le pasteur a un rôle de surveillance des mœurs, un rôle de prédication, je vous l'ai dit, mais on attend de lui que sa prédication et son contrôle des mœurs se fassent également par l'exemple. C'est-à-dire qu'il doit donner l'exemple d'une bonne vie chrétienne. Et comme les pasteurs ont le droit de se marier et d'avoir une famille, eh bien, la façon dont ils mènent leur vie de famille est particulièrement scrutée. Hein, ils doivent donner à leurs fidèles une voie à suivre. Hein, et lorsqu'ils ne le font pas, eh bien, ils sont déposés. Ils sont donc contestés. Alors, ces colloques, ces synodes sont, au XVIIe siècle, menacés, sont en déclin. Tout d'abord, les synodes nationaux ne se réunissent plus après 1659, par volonté du pouvoir royal d'interdire ces réunions de protestants qui discutent d'on ne sait pas trop quoi et donc dont on se méfie. Et donc, les synodes nationaux sont interdits. Et puis, petit à petit, les synodes provinciaux sont de plus en plus surveillés. Ce qui fait que cette surveillance des laïcs sur les pasteurs, elle a tendance à s'estomper. Précisément parce que la persécution du pouvoir royal fait que le pasteur va être de moins en moins contestable parce qu'on a besoin de lui pour être une figure d'autorité. C'est ce que je vais voir dans un deuxième temps, le pasteur comme représentant et comme défenseur de son Église auprès du pouvoir. Et tout d'abord, le pasteur, c'est un représentant naturel d'un corps privilégié. Alors, je voudrais m'arrêter deux secondes sur cette notion de corps privilégié. Dire que les protestants sont des privilégiés sous l'édit de Nantes, sous le régime de l'édit de Nantes, ça peut paraître un peu provocateur quand on sait à quel point cet édit de Nantes ensuite a été remis en cause et à quel point les protestants ont été persécutés. Alors, il faut prendre l'idée de corps privilégié au sens de l'Ancien Régime. C'est ça qui nous rend l'Ancien Régime totalement étranger. C'est-à-dire que pour nous, un des principes fondateurs de la société, c'est que chaque individu est égal devant la loi. Or, sous l'Ancien Régime, on n'est pas face à la loi, mais on appartient à un corps qui a lui-même ses propres lois. Et c'est ça qu'on appelle des privilèges. Or, les propres lois des réformés, c'est l'ensemble de l'édit de Nantes. Et donc, par l'édit de Nantes, les protestants sont un corps privilégié. Alors, ça leur donne à la fois des droits et des devoirs. Et parmi les droits, les protestants sont représentés. Ils ont le droit d'avoir l'oreille du pouvoir. On écoute normalement leurs délégations, etc. Et donc, comme représentant naturel de ce corps privilégié, on a évidemment les pasteurs. C'est précisément pour la raison que je vous ai dite tout à l'heure, c'est qu'il y a de moins en moins, de nobles dans les églises réformées qui auraient pu jouer ce rôle de représentant naturel. Il y a de moins en moins de nobles. Au XVIIe siècle, on ne retrouve pas non plus de grandes figures comme on pouvait l'avoir à la fin du XVIe et au début du XVIIe, comme celle de Philippe Duplessis-Mornay, hein, qui était vraiment la grande figure politique du protestantisme français au tournant des XVIe et XVIIe. Donc, au XVIIe, on a plus de figures aussi puissantes. Et donc, nécessairement, ce sont des pasteurs qui vont jouer ce rôle. Alors, il y a quand même, normalement, comme représentant des protestants à l'échelle nationale, on a normalement ce qu'on appelle le député général des Églises réformées. À la fin du siècle, c'est cet homme, qui est le marquis de Ruvigny. Mais en réalité, le député général des Églises réformées de France, c'est quelqu'un qui est surtout un diplomate et qui vit à la cour et qui est proche de la cour, qui est proche du pouvoir et qui s'intéresse assez peu, enfin, en tout cas, qui n'a pas les moyens de réellement améliorer la vie des Églises. Alors, du coup, ces pasteurs sont les représentants. Et ça fait qu'au XVIIe siècle, encore plus qu'au XVIe, va se former une sorte de hiérarchie entre les pasteurs. C'est-à-dire qu'on a des pasteurs qui vont avoir suffisamment de charisme, suffisamment d'importance, suffisamment de réputation, de crédit, pour être légitimes pour représenter toutes les églises réformées de France. Alors, ça, c'est totalement contraire à l'esprit des églises réformées, puisque normalement, tous les pasteurs sont égaux les uns les autres, toutes les églises sont égales les unes aux autres. Alors, un tel principe ne peut pas fonctionner, et au cours du XVIIe siècle, on s'aperçoit que comme figure du pouvoir et comme interlocuteur du pouvoir, ceux qui vont vraiment émerger, ce sont les pasteurs de Paris. Donc les pasteurs de l'église de Charenton, qui sont vraiment les pasteurs les plus prestigieux. On a celui que j'ai cité tout à l'heure, Charles Drolincourt, Jean Daillé. Ce sont vraiment des noms très, très importants dans le monde français. Et puis, un deuxième centre pourrait être l'Académie de Saumur aussi. C'est à Saumur qu'exercent de grands pasteurs et professeurs qui, eux aussi, eh bien, incarnent finalement le protestantisme français. Alors, ça, c'était à l'échelle nationale, si vous voulez, mais à l'échelon de chaque église, le pasteur aussi est considéré comme le défenseur de sa communauté, face notamment aux attaques politiques et judiciaires. Je le disais en introduction, théoriquement, le pasteur n'a pas à s'occuper d'affaires politiques et n'a pas à discuter avec l'autorité. Mais petit à petit, au XVIIe siècle, ça va être quelque chose, une qualité attendue. Et on s'aperçoit qu'à partir des années 1550-1560, le fait d'être un leader, si vous voulez, quelqu'un qui sait mener une église, ça va devenir un critère de recrutement des pasteurs. C'est-à-dire qu'on va choisir les pasteurs en fonction de leur capacité et de leur habileté, justement, à mener une discussion politique et à négocier éventuellement avec les autorités. Alors, c'est vraiment quelque chose de quotidien pour les pasteurs, de devoir représenter et défendre leur communauté face aux attaques. Pourquoi c'est quotidien ? Parce que ces attaques, elles viennent de deux endroits, mais qui ont tendance de plus en plus à travailler ensemble. Les premiers à attaquer les communautés réformées, évidemment, ce sont les membres du clergé catholique qui, au quotidien, luttent pour entraver l'exercice du culte le plus possible. Puis le deuxième cœur des attaques, c'est petit à petit le pouvoir royal lui-même qui va appuyer ces attaques du clergé. Alors, il y a plusieurs niveaux dans lesquels les pasteurs doivent défendre leur communauté. Il y a un niveau qui est plutôt attendu, c'est le niveau de la controverse. C'est-à-dire que les pasteurs, ponctuellement, peuvent être amenés à se lancer dans des défis théologiques face à des membres du clergé catholique. Bon, ça, c'est tout à fait attendu de leur part, et ça, c'est un moyen reconnu d'être le défenseur de sa communauté. Parfois, c'est un petit peu plus complexe. Je donnerai comme exemple, en 1682, il est décidé de lancer aux protestants ce qu'on appelle un avertissement pastoral. Le clergé de France décide d'appeler, le clergé catholique de France décide d'appeler les protestants à se convertir au catholicisme, bon, c'est classique, mais en tout cas, il est décidé que dans tous les consistoires, on allait lire cet avertissement pastoral. Alors, le premier consistoire à recevoir cet avertissement pastoral, c'est celui de Charenton, justement. Et le pasteur le plus en vue de Charenton à ce moment-là, qui s'appelle Jean-Claude, propose une réponse. Et dans sa réponse, on voit qu'il mêle les éléments ecclésiastiques et les éléments politiques. C'est-à-dire qu'il veut être à la fois fidèle au roi et continuer à exercer sa religion. J'y reviendrai tout à l'heure dans la dernière partie de mon intervention. Et puis, on a, à côté de ces niveaux qui sont finalement attendus pour les pasteurs, on a des fois des niveaux plus surprenants, c'est-à-dire que les pasteurs sont obligés parfois vraiment de s'abaisser à un niveau de défense qui est parfois très bas, puisque les pasteurs sont parfois amenés à lutter en justice contre les attaques catholiques eux-mêmes, c'est-à-dire à être eux-mêmes les avocats de leur communauté. Alors là, je voulais vous montrer justement un document messin, c'est peut-être le dernier, je crois. Un document messin, c'est un dessin d'un temple. Dessin d'un temple, alors on pourrait croire que c'est un dessin qui vise à représenter le temple pour lui-même, ce qui pour nous est déjà pas mal, mais en réalité, ça c'est un dessin qui a été réalisé par un des pasteurs pour une attaque en justice. C'est-à-dire que le temple, ce temple-là, en 1642, il avait été donné aux jésuites par le pouvoir royal. Et les jésuites, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils se sont empressés de détruire un mur et d'y mettre plein de fenêtres. Sauf que, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté ? Eh bien, il y a l'habitation de ce pasteur. Donc, en fait, vous voyez, hein, il y a aussi comme ça des chicanes au quotidien. Hein, les pasteurs sont aussi les victimes des attaques à la fois du pouvoir royal et du pouvoir ecclésiastique, et ça fait qu'ils sont obligés d'incarner la défense de leur communauté. Alors ils le font aussi, par exemple, en rédigeant des mémoires historiques. Ils sont bien obligés de tout faire pour pouvoir défendre l'existence même, parfois, de leur communauté. Alors, dernier exemple du pasteur comme représentant de son église, ce sont les harangues. Alors, les pasteurs, au cours du XVIIe siècle, deviennent ce qu'on appelle les harangueurs ordinaires des églises réformées de France. Ça veut dire que lorsqu'un représentant du pouvoir passe dans leur ville, c'est eux qui prennent la parole au nom de leur église et qui adressent à ce représentant du pouvoir ce qu'on appelle un compliment ou une harangue. Alors, ces discours politiques sont extrêmement intéressants puisque justement ils nous montrent quelle est l'identité politique des pasteurs et quel est le message qu'ils veulent faire passer. Alors je vous disais tout à l'heure que c'était le dernier exemple messin, en fait non, il est maintenant, puisque j'ai réussi à retrouver 58 harangues au cours du XVIIe siècle pour la ville de Metz. Et parmi ces 58 harangues, dont certaines ont été prononcées devant le roi, hein, devant Louis XIII, devant Richelieu aussi. Hein, donc on a parfois affaire à des personnages très importants. Hein, le pasteur s'adresse à des personnages très importants. Alors, parmi ces 58 harangues, il y a trois éléments qui reviennent en permanence et qui fixent un équilibre assez fragile et qui montre justement quelle est l'identité politique des pasteurs et en tout cas ce qu'ils veulent défendre. Premier élément, et c'est ça qui peut parfois paraître assez surprenant, mais j'aurai à y revenir, c'est que les pasteurs défendent l'idée que le roi est un roi sacré. Ça, toujours. C'est-à-dire que même s'il est sacré en vertu d'une cérémonie catholique, les pasteurs reconnaissent que le roi est le lieutenant de Dieu sur terre, qu'il est légitime comme tel. Et on a même, j'y reviendrai tout à l'heure, hein, on a même des discours dans lesquels on reconnaît la naissance miraculeuse de Louis XIV. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais Louis XIV était censé être né miraculeusement. En tout cas, c'est ce qui se disait dans certains milieux catholiques, puisqu'il était né après plus d'une trentaine d'années de mariage stérile de ses parents. Et donc, c'était censé être un miracle, et notamment un miracle dû au fait que Louis XIII avait voué le royaume de France à la Vierge. Donc, en remerciement, il avait donné un fils à Louis XIII. Eh bien, on a des discours de pasteurs protestants où on admet que Louis XIV est né de façon miraculeuse, ce qui est quand même tout à fait étonnant. Ça, c'est le premier élément politique. Deuxième élément politique, c'est que les pasteurs rappellent toujours que les protestants sont par nature fidèles au pouvoir. Alors ça, c'est parfois difficile à prouver, parce qu'il y a quand même l'exemple dans les années 1620, justement, des guerres de Rohan. Et donc, il faut parfois, trouver des arguments pour dire que les réformés sont par nature fidèles, d'autant que c'est justement un des aspects sur lequel les catholiques attaquent beaucoup. Hein, les catholiques disent toujours, au contraire, les protestants, ils sont par nature subversifs, ils sont par nature républicains, ils n'aiment pas la monarchie. Et donc, ce sont des ennemis politiques. Ça, c'est le deuxième élément. Et puis, le troisième élément, et c'est ça qui fait que l'équilibre est subtil et fragile, c'est que même s'ils se reconnaissent comme parfaitement obéissants, et même s'ils reconnaissent que la monarchie est sacrée, eh bien, ils rappellent toujours que leur existence, eh bien, elle doit être protégée par les édits et qu'ils ont une liberté de conscience qui doit être absolue. C'est-à-dire que le pouvoir du roi ne s'étend pas à la liberté de conscience. Et ça, c'est un point qui est fondamental parce que, justement, ça permet de comprendre que, eh bien, à la révocation de l'édit de Nantes, justement, Louis XIV aura outrepassé finalement cette limite. Hein. Alors, ça me permet de passer donc au dernier élément. Il me reste encore un petit peu de temps. Je vais essayer de ne pas trop traîner. En tout cas, le pasteur, donc, face au pouvoir royal, quelle position avoir face à l'absolutisme? Tout d'abord, la politique et la chair. Alors, théoriquement, il est strictement interdit de parler de politique en chair. C'est une des décisions qui a été prise au synode national d'Alès en 1620. Hein, c'est cet article que vous pouvez lire là. Hein. Il est défendu à tous les pasteurs de mêler dans leurs prédications, qui ne doivent avoir que la parole de Dieu pour matière, aucun discours d'affaires politiques, sous peine à ceux qui y contreviendront d'encourir toutes sortes de censures jusqu'à la suspension du saint ministère. Donc il est strictement interdit de parler de politique en chair. Ça, c'est la règle. Sauf que on s'aperçoit que ce n'est pas toujours bien appliqué et que c'est même qu'il est même parfois admis qu'on contrevienne à cette règle. Alors pourquoi? On le voit en 1626. Donc vous voyez, c'est très peu de temps après cette interdiction. En 1626, au synode national de Castres, les pasteurs sont invités à prier tous les dimanches pour la santé du roi, la santé de la famille du roi et la prospérité des armes du roi. Alors, en invitant à prier pour cela, forcément, on introduit des éléments de politique en chair et on incite les pasteurs à développer en chair un discours qui est un discours d'acceptation de l'autorité monarchique absolue. Alors, ça peut aller très très loin. Hein. On s'aperçoit, par exemple, que dans certaines prédications en 1643, lors de la mort de Louis XIII, on a des prédications qui sont vraiment à la gloire de la monarchie, parfois même à la gloire de l'action de Richelieu, ce qui est vraiment étonnant quand on sait ce que Richelieu a fait à La Rochelle. Hein. Mais on a une vraie soumission, hein, au pouvoir royal, qui se cristallise, hein, vraiment, 1643, la mort de Louis XIII, c'est vraiment un moment important. Puis à chaque fois que la nouvelle de la maladie du roi ou de la maladie d'un de ses enfants ou la maladie de la reine arrive dans une ville, eh bien, on organise des prédications pour son rétablissement. Parfois, la prescription de prier pour la prospérité des armes du roi peut sembler aller à l'encontre des intérêts des protestants. Par exemple, pendant la guerre de Hollande, entre 1672 et 1678, Louis XIV envahit les Provinces-Unies, qui sont un État calviniste. Eh bien, pendant toute la guerre de Hollande, on a des preuves que tous les dimanches, on prie pour la prospérité des armes du roi, c'est-à-dire qu'on prie pour la défaite des coreligionnaires néerlandais et pour la victoire de Louis XIV, qui pourtant, aux Provinces-Unies, bah, rétablit le catholicisme partout. Hein, il rétablit le catholicisme, par exemple, à Maastricht, à Utrecht, dans des villes où il n'y avait plus de culte catholique. Donc, vous voyez, on a vraiment un discours de soumission qui est important. Alors, ce discours de soumission, il s'explique, à mon avis, par le tournant qu'a constitué l'année 1629. 1629, c'est la défaite de Rohan et de son frère Soubise, et c'est l'année donc de la paix d'Alès et de l'édit de Nîmes, 1629. Or, avec l'édit de Nantes, Henri IV avait donné aux protestants, vous le voyez ici, un ensemble de places de sûreté. C'est un système politique et militaire de défense. En 1629, tout ce système politique et militaire est entièrement démantelé avec l'édit de Nîmes et la paix d'Alès. C'est-à-dire que désormais, à partir de 1629, les protestants ne doivent leur survie qu'à la seule bonne volonté du roi. Et ça a eu un effet très clair, hein, dans la soumission au pouvoir. C'est-à-dire que les pasteurs se sont lancés parfois dans une forme de surenchère. C'est-à-dire qu'on a toujours voulu montrer davantage sa fidélité, davantage sa soumission, pour justifier le privilège que donne le roi aux protestants de pouvoir continuer à exercer librement le culte. Alors ça se voit, à mon avis, à deux grands moments. sont des moments où justement leur soumission est scrutée. Le premier moment, c'est le moment de la Révolution anglaise, notamment 1649. Parce qu'en 1649, en Angleterre, se passe quelque chose d'extraordinaire qui met le feu à toutes les chroniques d'Europe, c'est qu'on coupe la tête au roi, on coupe la tête de Charles Ier. Or, qui coupe la tête de Charles Ier ? Ce sont essentiellement ceux qu'on appelle des indépendants, des puritains en quelque sorte, qui sont théologiquement relativement proches des calvinistes français. Donc il va y avoir tout un système de défense des calvinistes français disant que non, 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 nous on se désolidarise totalement de ces gens-là qui ont coupé la tête à leur roi. Nous, on est fidèles à la monarchie. Nous, on est proches des anglicans, c'est ce qu'ils disent, les anglicans qui, eux, avaient soutenu Charles Ier. Vous voyez, ça, c'est un premier moment où, justement, se cristallise cette soumission au pouvoir absolu. Puis le deuxième moment, c'est la Fronde. Lors de la Fronde, entre 1648 et 1652, les protestants sont vraiment fidèles. Il n'y a pas de cas de grands frondeurs protestants. Et d'ailleurs, Mazarin lui-même reconnaît que les protestants se sont conduits de façon extrêmement fidèle et que, enfin, il les remercie même hein, avec une déclaration royale qui leur est favorable en 1652. Alors, le cas peut-être extrême de soumission des pasteurs à ce discours, c'est le traité du pouvoir absolu des souverains, qui a été écrit par Élie Merla, un pasteur de Saintes. Et cet ouvrage, il date de 1685. C'est-à-dire que l'année même de la révocation de l'édit de Nantes, on a un traité qui théorise théologiquement le pouvoir absolu des souverains. Alors, ça ne veut pas dire que c'est allé, que ça a été universellement accepté. Hein. D'ailleurs, on peut même souligner que quand on arrive à pénétrer dans le secret d'une correspondance, on s'aperçoit que les pasteurs eux-mêmes ne croient pas toujours à cette soumission et à ce discours de la soumission. Hein, par exemple, dans les lettres que moi j'ai dépouillées pour étudier le cas de Paul Ferry, il y a par exemple des lettres qu'il écrit à un pasteur qui est réfugié aux Provinces-Unies, en Hollande, et il lui dit clairement hein, « ben nous on est persécutés, j'aimerais bien être réfugié comme vous, mais bon, je ne peux pas ». Et puis au même moment, ben, ces prédications, elles sont tout à fait soumises au pouvoir. Hein, donc il y a quand même cette limite-là, c'est qu'il s'agit en grande partie d'un discours de façade. Puis la deuxième limite, c'est qu'il y a des laïcs, il y a des laïcs qui s'opposent à cette soumission pastorale, et on le voit notamment en 1683. En 1683, dans les Cévennes, autour de Claude Brousson, qui est alors un avocat, eh bien, il y a un mouvement de véritable résistance passive. C'est-à-dire qu'il y a toute une série d'églises qui avaient été interdites par des déclarations royales. Sur le lieu où se tenaient les cultes des églises interdites, eh bien, les fidèles se rassemblent et célèbrent le culte de façon clandestine. Et c'est un laïc. Alors là, il est habillé comme un pasteur parce que, après cet épisode, ben, il va devenir pasteur et puis il va d'ailleurs mourir en martyr à son retour en France. Mais Claude Brousson, au moment où il organise la résistance, ben, il n'est pas un pasteur. Précisément peut-être parce que les pasteurs sont incapables de résistance à ce moment-là. Alors je voudrais terminer par ces notions, hein, et ce sera une forme de conclusion. Je voudrais terminer par ces notions d'embourgeoisement et de léthargie. Ce sont des mots qui sont pris eh bien, de l'auteur que je vous ai cité en introduction, Émile Guillaume-Léonard, pour désigner justement les pasteurs du XVIIe siècle. Il les a désignés donc comme en léthargie et comme victimes d'embourgeoisement. Je pense qu'il faudrait peut-être poser la question à l'envers. C'est-à-dire que les pasteurs avaient-ils les moyens de faire autrement que de proposer un discours de soumission ? C'est-à-dire que, vu les circonstances dans lesquelles la liberté de culte était tolérée, notamment après 1629, est-ce qu'ils avaient les moyens de proposer un véritable discours s'opposant à la monarchie absolue et essayant de la secouer ? Et puis, j'irai même plus loin, est-ce qu'ils en avaient envie ? C'est-à-dire qu'ils sont nés dans un XVIIe siècle où culturellement et politiquement, ils ont baigné dans un milieu où la soumission à la monarchie était générale. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont les enfants de leur milieu. Alors finalement, et paradoxalement, ça peut sembler être un paradoxe, c'est la révocation de l'édit de Nantes en 1685 qui va faire changer radicalement la perception qu'ont pu avoir les pasteurs protestants, français en tout cas, de la monarchie absolue. Ça les a finalement libérés du carcan dans lequel ils pensaient jusque-là. C'est-à-dire que jusque-là, ils pensaient dans le cadre de la monarchie qui leur avait donné l'édit de Nantes. En supprimant l'édit de Nantes et en remettant en cause la liberté de conscience, eh bien Louis XIV les a finalement contraints à penser autrement. Mais alors, ils ont quand même pensé autrement depuis l'étranger, puisque aucun pasteur réformé n'est resté en France à la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Les grandes décisions de la révocation de l'édit de Nantes, c'est tout d'abord d'obliger les pasteurs à soit se convertir, soit quitter la France sous 15 jours. Eh bien, pratiquement tous ont choisi l'une ou l'autre alternative. Alors, en très très grande majorité, ils ont choisi de quitter la France. Mais l'autre décision, c'était que tous les laïcs, eux, avaient interdiction de quitter la France. Alors évidemment, ça a suscité, et notamment autour des fidèles de Brousson, ça a suscité des débats. Hein. Les pasteurs étaient-ils en droit de quitter la France et d'abandonner leurs troupeaux à leur triste sort ? Hein. Alors, de très nombreux pasteurs ont écrit depuis le refuge, depuis donc, les lieux où ils s'étaient retirés, principalement les Provinces-Unies, les États allemands, la Suisse, l'Angleterre. Ils ont écrit des défenses en disant que ben, si, ils avaient le droit de partir, puisque c'était la législation. Donc vous voyez, ils n'étaient pas non totalement détachés de ce discours monarchiste. Mais en tout cas, à partir de 1685, eh bien, on a une véritable remise en cause hein, de cette soumission à l'autorité absolue. Voilà, je vais m'arrêter là pour laisser du temps aux questions. Et puis, ben, je vous remercie d'avoir été attentif.
Bien, je vous remercie beaucoup pour cette présentation claire, précise. Et avec des exemples très éclairants, avec un certain nombre de
messes,
mais qui étaient les bienvenus, et qui nous montrent une figure de pasteur, j'avais envie de dire, qui pourrait se résumer, en tout cas c'est le sentiment que ça me laisse, par une expression dans un équilibre fragile, à l'image de cette communauté réformée du XVIIe siècle, hein, qui a du mal à trouver ses marques, même si, comme vous l'avez souligné, elle est légale, elle est tiraillée entre... la mise en place de ces institutions, de son organisation, et un pouvoir royal quand même très présent. Et au fond, la figure du pasteur, vous l'avez très bien montré, hein, me semble être aussi à l'image de cette communauté, tiraillée au sein même de sa communauté, contrôlée, surveillée par ses laïcs, vous l'avez bien montré, et puis contrainte aussi d'avoir une parole publique face à un pouvoir royal qui peut se faire très menaçant face à des autorités catholiques aussi qui peuvent aussi se faire très menaçantes. Alors ça soulève évidemment un certain nombre de questions, d'échelle notamment. Est-ce que tous ces pasteurs qui sont dans cet équilibre fragile, ça n'est pas la figure de pouvoir, hein, d'autorité qu'on imagine ? Est-ce que c'est le cas pour tous les pasteurs ? Est-ce que c'est le cas surtout pour des pasteurs qui sont en milieu urbain ou des communautés très visibles, comme celle de Charenton, par exemple, avec des laïcs puissants ? Ou est-ce que dans des communautés rurales, comme à Saint-Jean-du-Gard, des communautés, des petites communautés, en Poitou, est-ce que la figure du pasteur, au contraire, sera une figure émergente, dominante, incontestée par les laïcs ? Et incontesté aussi par certains prêtres de paroisse qui sont encore peu formés, même si le Concile de Trente hein, a mis en place ces formations, et qui ne sont pas en mesure de contester, justement, face à ce pasteur qui, lui, détient un savoir.
Oui, alors c'est effectivement, le problème, c'est qu'on risque beaucoup la distorsion à cause des sources que l'on a. L'essentiel de nos sources viennent quand même des communautés plus importantes. Alors, il y a des exceptions. Vous avez cité Saint-Jean-du-Gard, hein, qui avait été étudié par Didier Poton, où effectivement, là, on a les registres du consistoire, on sait exactement ce qui se passe. Mais même dans ces communautés-là, le pasteur reste un pasteur surveillé parce qu'il y a toujours la menace, justement, des colloques et des synodes. Hein. Alors, il y a la menace à la fois du regard des laïcs et puis du regard des confrères aussi. Il y a une véritable surveillance. Disons que le pasteur, dans tous les cas, hein, même si effectivement, vous avez raison, il faut vraiment prendre garde à faire cette typologie des cas, hein, et à bien montrer qu'il y a des différences entre les églises urbaines, les églises rurales. Malgré cette différence, nulle part le pasteur n'est une figure d'autorité incontestée. Hein, nulle part, et partout il vit sous surveillance, ne serait-ce que parce que c'est une de ses missions, c'est de donner le bon exemple. Et comme il doit donner le bon exemple, eh bien, forcément on va le regarder et on va voir comment il se comporte.
Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques dans le public ?
Je vous ai assommé.
Oui, deux questions là. On va parler dans le micro, comme ça c'est enregistré et on entendra les questions.
Oui, je vous remercie. Pour élargir un petit peu, est-ce que ce que vous avez dit sur le XVIIe siècle n'est pas présent dès le XVIe ou XVIIIe, bon, dans un contexte complètement différent, mais on retrouve ça aussi au XIXe siècle où des pasteurs font l'éloge de Napoléon, puis de Louis-Philippe, etc. On n'est pas dans le 10e siècle, on n'est pas le risque. Mais est-ce que les traits que vous avez décrits, est-ce qu'on ne les retrouve pas comme une ligne de force un petit peu là ?
Alors, oui, vous avez raison. Alors, au 16e, c'est particulièrement le cas lorsque. Alors, vous avez peut-être assisté à la conférence du professeur Dossi sur le parti huguenot. Avant 1572, il y a quand même un espoir assez fort qu'ont les pasteurs qu'un jour le roi se convertirait. D'ailleurs, les épîtres dédicatoires de l'institution de la religion chrétienne de Calvin sont adressées à François Ier. Donc, il y a cet espoir. Et donc, du coup, pour ne pas se couper de l'espoir que le roi se convertisse un jour, il y a un discours aussi de soumission au pouvoir monarchique. Alors, ce discours de soumission, s'il se prolonge, et notamment dans les périodes où le pouvoir ecclésiastique dépend beaucoup du pouvoir politique, vous avez cité le 19e siècle. Au 19e siècle, les pasteurs sont salariés de l'État. Hein, ils vivent sous le régime du concordat de Napoléon, et donc ils ne peuvent pas vraiment avoir un discours subversif, hein, par nature. Et une des raisons qui explique cette permanence, c'est que de très nombreux pasteurs la justifie bibliquement, avec le passage de l'Épître aux Romains sur « il faut être soumis aux autorités hein, ». Donc ce passage-là est très souvent commenté et il justifie très souvent ce discours de soumission, puisque le mot « soyez soumis aux autorités » est dans la Bible. Je pense que c'est peut-être ça qui explique cette permanence de la soumission.
Est-ce qu'il y a un thème de prédication qui se dégage un peu au XVIIe siècle plus que les autres ? Est-ce qu'il y a un message particulier, qui ne soit pas nécessairement politique, mais religieux ou spirituel, qui se dégage plus que les autres au XVIIe siècle, une préoccupation première sur le plan religieux ?
Non, alors non, et là je peux répondre de façon très tranchée, non, parce que c'est dû à la structure même de la prédication réformée au XVIIe siècle. C'est le principe qui a d'ailleurs avait été institué par Calvin lui-même, c'est le principe qu'on appelle le principe de la lectio continua. C'est-à-dire que chaque pasteur choisit un livre de la Bible qu'il va expliquer du début à la fin, parfois pendant plusieurs années, hein, ça peut prendre parfois une dizaine d'années. On explique verset par verset chaque passage de la Bible. Ce qui fait qu'il n'y a pas de thème qui ressort, puisque en fonction du verset que l'on va étudier ce jour-là, ben on va parler de thème. Alors, il y a quand même des moments où on sort de cette logique de lectio continua. Par exemple, quand on célèbre la scène quatre fois par an, là on prêche sur les textes évangéliques qui rapportent la scène, hein, etc. Il y a aussi les moments d'épidémie, les moments de guerre. Alors là, généralement, on prêche sur l'Ancien Testament pour appeler les fidèles à la repentance. Parce que, alors ça, c'est quelque chose que j'aurais peut-être pu dire hein, ou développer, c'est qu'une des idées que développent les pasteurs pour justifier la soumission aux autorités, sans s'attaquer à la figure de l'autorité qui pourtant persécute, c'est de dire que si le roi vous persécute, Enfin, c'est ce que le disent les pasteurs. Hein. Les pasteurs disent à leurs fidèles, si le roi vous persécute, c'est parce que vous êtes pécheurs. Et donc, Dieu utilise son lieutenant sur terre, le roi, pour vous persécuter légitimement puisque vous avez péché. Donc, repentez-vous. Et donc, on a dans les années 1670-1680 toute une série de journées solennelles de jeûne. Hein, et c'est dans ce cadre-là que Drolincourt avait prêché pendant 2h45. C'est-à-dire des successions de trois prédications dans la journée avec des fidèles qui restent dans le temple de 9h du matin jusqu'à 19h le soir et qui écoutent comme ça trois prédications de suite appelant à la repentance. Et on en a de plus en plus dans les années 1670-1680. Donc ça ressort. Et c'est très souvent sur des textes de l'Ancien Testament. Mais sinon, du coup, ben, la lectio continua fait qu'il n'y a pas de thème qui se dégage.
Alors, sans jouer sur les mots, est-ce que vous ne pensez pas que le terme « soumission », qu'on trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, verset 1, ne veut pas dire quand même « asservissement » puisque dans d'autres textes, il est dit « on a oublié à deux plus gros hommes ».
Oui, oui, oui.
Il doit y avoir une nuance.
Oui, oui, tout à fait. Tout à fait.
Dans
tout à fait, absolument. Et c'est d'ailleurs, quand j'évoquais les trois fondements de l'équilibre de la vision politique qu'ont les pasteurs, le dernier fondement de cet équilibre, c'est le roi n'a pas légitimité à légiférer en ce qui concerne la conscience. Et cette liberté absolue de la conscience, eh bien, elle se défend par le passage des Actes des Apôtres en disant « il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Et ça, tout à fait. Hein. Il y a ces deux pôles, hein, soumission aux autorités, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça d'ailleurs, c'est quelque chose qu'avait bien montré des travaux il y a quelques années de l'historien Hubert Bost. Il a bien montré que les pasteurs étaient constamment tiraillés entre ces deux pôles-là et que finalement, ben, l'équilibre entre les deux était difficile à trouver. Tout à fait, hein, vous avez raison de souligner ça.
Pourquoi le litige à Bordeaux et à Metz, pourquoi ces deux litiges ne sont pas traités par les synodes provinciaux, puis le synode national ?
Eh bien, c'est pour éviter que ce soit traité... Alors, le cas de Metz, Metz n'appartient pas au synode.
D'accord.
Et c'est une église indépendante. Oui. Pour Bordeaux, en fait, c'est une stratégie des anciens pour mieux attaquer leurs pasteurs. Ils se doutent que si c'est remonté aux synodes provinciaux, ils vont être blanchis, en quelque sorte. Tandis qu'en les attaquant devant une juridiction royale, ils auront plus de chances d'aboutir à la déposition. Et ça va avoir des effets vraiment très graves, puisque c'est à partir de ce moment-là que le roi interdit aux pasteurs étrangers d'exercer en France. Ce qui n'a pas d'équivalent pour les catholiques. Les catholiques, si un prêtre étranger vient exercer en France, il suffit qu'il sache parler français et il peut exercer en France. Les pasteurs, eux, sont obligés d'être natifs de France pour pouvoir exercer.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, pour conclure, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de la femme du pasteur ?
Ah oui, oui. Oui, alors la femme du pasteur, c'est aussi finalement une figure d'autorité. Une figure d'autorité parce que... c'est un cas assez complexe parce qu'on manque beaucoup de sources. On manque de sources et puis il n'y a pas de définition réglementaire du rôle de la femme du pasteur. C'est quelque chose d'extrêmement... qui s'est construit de façon pragmatique.
Et à aucun moment la discipline n'en parle.
Ah non, la discipline n'en parle pas. La discipline parle juste de la nécessité pour les pasteurs de faire attention à ce que leurs femmes, voilà, justement, se vêtissent et se coiffent correctement. Mais c'est tout. Mais dans les faits, quand on les observe, on s'aperçoit que les femmes participent de façon directe ou indirecte au ministère de leur mari. Alors, de façon directe, on a de très nombreux exemples de femmes qui vont visiter des femmes malades de la communauté ou des femmes pauvres et qui vont aider à l'assistance. Et donc, finalement, elles exercent une forme de ministère informel. D'autre part, on a une participation indirecte. On a plusieurs sources qui disent que pour qu'une femme de pasteur soit bien dans son rôle, il faut qu'elle mette tout en œuvre pour que son mari n'ait que son ministère en tête. Donc elle doit s'occuper de tout, des enfants, de l'économie domestique. ça lui donne quand même beaucoup d'importance et de latitude. Par exemple, c'est elle qui doit gérer les biens du ménage, hein, ce qui lui donne quand même pas mal d'importance. Elle doit laisser l'esprit tranquille à son mari. Et puis, à l'inverse, on a des figures, justement dans les actes de synode, etc., on a des figures de femmes de pasteurs qui servent de repoussoir. Les femmes de pasteurs ne doivent pas se donner en spectacle, ne doivent pas créer de scandale, etc. Donc on a à la fois une figure positive, qui peut prendre plusieurs formes, et puis des figures plus repoussoires, on va dire. Mais en tout cas, la femme de pasteur au XVIIe, ça c'est un vrai sujet. Malheureusement, il n'y a pas suffisamment de sources, mais ce serait vraiment un vrai beau sujet à traiter parce que elles ont un rôle qui dépasse très largement les traces qu'elles ont laissées, très largement.
Avis aux futurs chercheurs.
Oui.
Bien, merci Julien. Je vous remercie encore une fois de votre invitation.
Merci à vous. Merci à vous.
Je vous rappelle donc cette question du programme. Le 20 mai, il y aura une conférence à Metz de Bernard Cottret, Cromwell et les Puritains, nouvelle approche de la Révolution anglaise. Vous pouvez retrouver cette conférence ensuite sur le site, c'est pourquoi je vous la signale. Celle de Patrick Cabanel, qui aura lieu le jeudi 26 mai à la faculté d'Aix, aura pour thème la résistance des protestants en France dans la Seconde Guerre, que vous retrouverez aussi sur le site. Vous retrouverez aussi sur le site celle organisée à Cholet. Je précise que la prochaine conférence ici, dans le cadre du cycle, sera consacré à Francis de Pressensé, grand homme de la Troisième République, et la défense des droits de l'homme, puisqu'il fonde la Ligue des droits de l'homme, ce Francis de Pressensé, issu de Edmond Pressensé, grand pasteur évangélique de la Troisième République. Et les protestants vont trouver le moyen, au travers des associations, d'exercer aussi leur pouvoir au sein de la société et de jouer leur influence. Le vendredi 27 mai, nous recevons ici, hors cycle, Michel Lyonneur à la médiathèque, que je remercie aussi de nous accueillir régulièrement. Et donc Michel Lyonneur viendra ici parler d'un sujet qui n'a quasiment pas été étudié. Il a défriché complètement ce sujet, donc le mariage huguenot au désert, soumission et résistance. Je vous invite donc à vous munir de ce programme que vous trouverez ici sur la table, où vous retrouverez toutes les conférences de la librairie. Vous pouvez ensuite les réécouter en ligne. Et puis je vous invite aussi à découvrir ici le bel ouvrage de Julien Léonard, consacré donc à Paul Ferry et à la figure de ce pasteur, aux figures des autres pasteurs aussi, puisqu'il dresse un vaste panorama de la figure pastorale en France au XVIe siècle. Je vous remercie encore de votre attention, d'être venu, et je vous souhaite à tous, nous vous souhaitons à tous, au nom de la librairie, un bon retour.